Bonsoir à tous, Yacouba Ouidraoui effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont déjà en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Direction Casablanca pour retrouver Amine Birouk. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
J'ai salué Élisée Oupatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci à vous. Avec nous également le douanier Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Nous retrouvons Amdimsi à Columbus, c'est dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdim, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Dans ce numéro de Sporama, de ce lundi donc 26 février 2024, les matchs interclubs des compétitions africaines, les éliminatoires des Jeux Olympiques pour le foot féminin zone Afrique, mais aussi du basket avec les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Merci à vous tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Ligue des champions donc, CAF, pour commencer avec le tout puissant Mazembe qui retrouve les quarts de finale grâce à sa victoire 3-0 face aux Égyptiens de FC Pyramide. Jules, je commence par vous. Cette victoire marque sans doute le retour en force pour Mazembe, qui semble redevenir tout puissant.
Bien sûr, c'est une victoire très symbolique, disons que marquée par le symbole. Le tout-puissant Mazembe, ces dernières années, nous avait habitué à des copies incomplètes. Mais là, nous retrouvons vraiment les qualités de cette équipe qui s'est marchée sur l'adversaire et prend les dispositions pour. Alors, Lamine Dia et ses poulains ont pratiquement écrasé FC Pyramide et tué toutes ses ambitions en gagnant le match contre leur adversaire du jour, pratiquement dès la première mi-temps. Et Joël Béa a marqué son but à la 32e minute sur une passe de Likonza. Le même Likonza qui va marquer le but du break à la 45e minute au temps additionnel. Et c'est toujours au temps additionnel de la 90e minute que le troisième but viendra, et qui est de Mwamba. Donc le tout puissant Mazembe a joué pour lui et sûrement aussi pour ces malheureuses personnes qui sont en train de subir à quelques kilomètres dans la province voisine les affres de la guerre. Alors, Mazembe, pour vive Maïs.
Bien évidemment, on a une pensée particulière, bien sûr, pour ce qui se passe dans l'est de la RDC. Dans ce même groupe A, les Mamelodi Sundowns, victorieux 2-0 sur la pelouse des Mauritaniens de Ouagadougou, assurent aussi leur ticket pour le tour suivant. Alors, Élisée, avec la qualification des Sud-Africains, on dira que la logique a été respectée dans cette poule A.
Oui, bien évidemment, puisque déjà dès la première journée, on a vu les difficultés qu'a connu le club de Lubumbashi, le TP Mazembe, battu justement par les Égyptiens au Caire. Donc on voyait déjà le club congolais mal parti dans ce groupe-là, même si c'était juste avant la Super Coupe africaine, la nouvelle compétition remportée par le Mamelodi Sundowns, qui désormais est considéré comme le plus grand club africain des clubs, même si en termes de palmarès, c'est bien à l'aller du Caire est devant. Le Mamelodi Sundowns, depuis environ 10 ans, est constant. C'est un club qui crée énormément de problèmes et qui a déjà remporté déjà 4 ligues, 2 ligues des champions, excusez-moi, j'allais dire 2 ligues des champions, vous imaginez, c'était le favori numéro 1 dans cette poule A. Et maintenant, ça va sur ça devait être joué entre, bien évidemment, le TP Mazembe et le Pyramide. Donc, le club congolais, le club de Lubumbashi, n'a pas raté cette opportunité, n'a pas raté cette occasion puisqu'il fallait battre Pyramide, chose faite avec la manière, beaucoup de manières, un score de 3-0. Donc le tout puissant Mazembe a fait respecter donc l'hiérarchie dans ce groupe là et aujourd'hui il partage aujourd'hui la première place avec le Mamelodi Sundowns. Donc lors de la dernière journée, on verra qui va terminer en tête de ce groupe A.
Dans le groupe B, les Ivoiriens de la SEC Mimosa, déjà qualifiés, ont fait match nul 0-0 devant Simba SC. Alors Amdimsi, malgré ce match nul, les Ivoiriens semblent de retour sur la scène continentale.
Tout à fait, Yacouba. La SEC Mimosa, c'est vrai qu'il a concédé le nul face au Simba Sport, 0-0, mais la SEC était déjà leader et la SEC conserve son fauteuil de leader du groupe B et les Ivoiriens qui comptent 11 points contre 5 ans pour les Tanzaniens qui sont deuxièmes, sont sûrs et certains donc de terminer premier de ce groupe. Donc ils vont disputer, comme vous l'avez dit, parce qu'ils déjà, ils étaient déjà qualifiés les quarts de finale. Cela montre encore une fois que le renouveau hein, au niveau du football ivoirien après le sacre des Ivoiriens, un sacre bon que vous avez bien suivi, et je pense que la SEC va continuer à surfer quand même sur ce succès des éléphants, et la SEC va dignement représenter le football ivoirien, puisque la SEC d'Abidjan est un grand club qui a formé de très très grands joueurs, et j'espère qu'ils joueront pas jusqu'au bout, mais ils feront tout quand même pour faire une performance extraordinaire, Yacouba.
Et toujours dans cette poule B, le Wydad de Casablanca se relance grâce à sa courte victoire 1-0 face au Botswanais de Swaneng Galaxy. Alors Amine, c'est une courte hein, mais précieuse victoire pour les Wydadis.
Disons, Yacouba, qu'elle maintient en vie l'équipe du Wydad de Casablanca parce que la deuxième partie de l'équation n'a pas été réalisée. Le Wydad n'a toujours pas son destin en main avant la dernière journée de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Certes, la victoire 1-0 permet au Wydad de revenir à hauteur de Simba, mais le goal à virage particulier prédomine. Il aurait fallu peut-être que Simba s'incline face à l'équipe de la SEC d'Abidjan, chose qui n'a pas été réalisée vendredi. Du coup, le Wydad, au terme d'un long voyage marathon, avec un, je dirais, beaucoup de problèmes administratifs pour pouvoir atterrir à Gaborone au Botswana sur un vol spécial, donc des autorisations de pouvoir survoler l'espace aérien du Botswana, de pouvoir atterrir, prendre un vol interne, s'est contenté du minimum syndical avec un but à zéro signé Gadarine, une des ex-nouvelles recrues du club, puisqu'il a été formé Wydad et il a été champion d'Afrique en 2017 avec l'équipe. Et puis, de fil en aiguille, son rendement avait tellement baissé qu'il avait été prêté à l'équipe du Moulay d'Oujda. Donc, de retour à Oujda, cet arrière-gauche de devoir a fait son job. Par contre, le Wydad a souffert en deuxième mi-temps et a dû, je dirais même, concéder un pénalty raté par l'équipe de Galaxy Joining. Le Wydad doit gagner samedi prochain à 16h GMT contre la SEC d'Abidjan à Marrakech et espérer que Galaxy fasse au moins match nul contre l'équipe de Simba. Sinon, ce seront les Tanzaniens qui franchiront le cap et ce sera une première pour le Wydad de Casablanca qui nous avait habitués pendant 8 éditions consécutives de la Champions League à jouer les premiers rôles, au moins passer le premier tour et pourquoi pas se retrouver, je dirais, dans le dernier carré de la compétition. L'Afrique du Nord, d'ailleurs, a perdu de très nombreux représentants dans cette phase de groupe et on risque d'avoir uniquement l'Ali ou peut-être l'Espérance de Tunis parmi les équipes conviées à disputer les quarts de finale de la compétition.
En attendant, dans la poule C, 0-0 entre Al-Hilal Omdurman du Soudan et Petro Atlético de Luanda. Par contre, 2-0 pour l'Espérance de Tunis, justement, dans son duel face à son compatriote et l'Étoile du Sahel. Petro ayant assuré son ticket d'écart, eh bien, l'Étoile éliminée, seule la deuxième place est en jeu et ça va se disputer entre l'Espérance de Tunis et Al-Hilal Omdurman. Dans la poule D, le tenant du titre Al-Ahli du Caire assure aussi sa qualification en allant battre 1-0 les Ghanéens de Medeama. Les Égyptiens comptent 9 points devant Young Africans de la Tanzanie, vainqueur 4-0 du CR Belouizda d'Algérie. Les deux vont se disputer donc la deuxième place qualificative pour les quarts. Alors Jules, Al-Ahli poursuit sa domination dans ce groupe, mais on dira au-delà, hein, se positionne comme candidat sérieux à sa propre succession.
Oui, il faut le dire, Yacouba, Al-Ahli est le Real Madrid d'Afrique. C'est-à-dire c'est une équipe qui a un ADN et qui correspond à la grande compétition africaine qui s'est préparée pour cela et qui vient chaque année pour essayer de la gagner. Et comme Al-Ahli a eu une prestation très honorable à la Coupe du Monde des clubs, et il revient en Afrique sûrement pour affronter son grand rival actuel qui est le Mamelodi Sundowns. Et ce n'est pas pour rien que Al-Ahli prend les devants déjà en commençant à éliminer les premiers obstacles. Je crois que cette équipe, il faut l'attendre vers la fin de la compétition.
La sixième et dernière journée est prévue donc en fait cette semaine. Et pour récapituler, 6 clubs sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF sur 8 attendus. La SEC d'Abidjan, tout puissant Mazembe de la RDC, Petro Luanda d'Angola donc, à la Ligue d'Égypte, Young Africans de la Tanzanie et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. En Coupe CAF, ils sont aussi 6 clubs à valider leur ticket pour les quarts de finale lors de la 5e journée des matchs de poule. Élysée, le tenant du titre, l'USM Alger, est qualifié malgré sa défaite 2-1 sur la pelouse des Libyens de Benghazi.
Et bien évidemment, l'USM Alger qui a déjà fait le plus difficile lors de la 4e journée, et on se rappelle très bien, avec le nul 0-0 sur le terrain des Égyptiens de Futu, ce qui lui permet déjà de consolider sa première place. Donc, l'USM Alger était déjà qualifié depuis cette 4e journée. Et donc, ce n'est qu'une formalité. Eh bien, le club qui s'est déplacé cette fois-ci du côté de la Libye pour aller quand même, pourquoi pas, consolider sa première place. Mais malheureusement, c'était une défaite. Le tenant du titre qui a perdu son entraîneur, aller du côté de la Tanzanie, puisque il est le nouvel entraîneur du club tanzanien, le FC Simba. Et bien, sans lui, l'USM Alger est en train de faire une très bonne prestation. Reste maintenant à voir si cette équipe pourra dépasser l'étape des quarts de finale, puisque en quart de finale, ça ira très très vite. La 6e journée va quand même être un peu plus claire, puisqu'on aura on connaîtra véritablement la confrontation des quarts de finale, mais une fois encore, l'USM Alger tient son rang et veut bien sûr défendre son titre de la Coupe CAF.
Alors Amdine, dans le groupe B, le second club libyen Abu Salem et le Zamalek du Caire sont les qualifiés dans le groupe B. Est-ce qu'on parlera de logique?
Bon, on parlera de logique si on regarde ce que fait Zamalek. Zamalek, vraiment, c'est le favori de ce groupe, et Zamalek a composé. Mais par contre, l'équipe libyenne, pour moi, c'est la surprise. Hein, la surprise de ce groupe, on ne l'attendait pas à ce niveau de la compétition, mais ils sont en train de faire un bon parcours sans tambour ni trompette, puisqu'ils sont le dauphin de Zamalek. Ils sont deuxième avec 9 points. Zamalek, bon, a un petit volet parce que Zamalek compte 13 points. Mais si on regarde vraiment ce groupe, on dira que, à part Zamalek, vraiment, la surprise, c'est cette équipe libyenne de Abu Salem qui s'est qualifiée sans tambour de trompette pour les quarts de finale, Yacouba.
Alors, Jules, en revanche, tout reste encore ouvert dans la poussée. Les Ghanéens de Dream FC comptent 12 points, 3 de plus que les Tunisiens du club africain et les Nigériens de Rovers United.
Oui, tout reste ouvert dans cette poule. Depuis le début, on a joué au yo-yo d'ailleurs dans cette poule où le leader a souvent changé. Même si le club africain est monté en puissance, l'équipe ghanéenne également, qui avait été un peu modeste au début de la compétition, s'est un peu rapidement rattrapée. Donc on attendra carrément cette dernière journée pour voir qui sortira de cette poule, sûrement des équipes inédites à ce stade de la compétition. Pour le moment.
Alors, Amine, dans la poule D, la Renaissance sportive de Berkane faisait face à Sekou Kouné de United, 0-0 en Afrique du Sud, suffisant au bonheur des Marocains, il faut le rappeler, double vainqueur de la compétition et qui retrouve les quarts de finale justement après leur fiasco l'année dernière.
Tout à fait, mais ça coulait de source après les trois premiers matchs où la Renaissance sportive de Berkane avait fait le plein. Ensuite, il y a eu un coup de moins bien avec un match nul au Congo et puis un deuxième match nul en Afrique du Sud sous la houlette de leur nouvel entraîneur, le Tunisien Moïn Chaibani, dont c'était la première sortie africaine. Il faut dire aussi que la Renaissance sportive de Berkane aurait pu un peu plus appuyer sur l'accélérateur puisqu'elle a joué toute la deuxième mi-temps en supériorité numérique. Elle a préféré assurer le résultat, donc un 0-0. Qui laisse Berkane en tête devant le stade malien. Maintenant, il va falloir jouer le sommet de ce groupe-là pour déterminer quelle équipe terminera première. Il y a un point d'écart entre les deux formations. Et un petit rappel aussi, c'est qu'il n'y aura pas d'ex-aequo. Et du coup, la victoire de Berkane face au club malien en dépassement à Bamako ne comptera pas. Berkane n'a besoin que d'un match nul dimanche à partir de 16h GMT pour pouvoir finir première et sauver au moins l'honneur d'un football marocain, Fanny, lors de cette édition des compétitions africaines, si l'on tient en compte peut-être la plus que probable sortie de route du Wydad de Casablanca.
Dans cette même poule D, le Stade malien a assuré l'essentiel 1-0 à domicile à la 90e minute face au Diable Noir du Congo. On écoute tout de suite Sekou Sek d'Ibaku.
L'équipe, les minutes, je pense qu'ils jouent sans pression. Et cependant, nous, on avait beaucoup de pression autour, car depuis un certain moment, on n'arrivait pas à gagner des matchs dans le championnat. Et Dieu merci, aujourd'hui, on arrive à gagner. Et je dis bravo. Et j'espère que ça va être un déclic pour nous.
Sekou Sek d'Ibaku, entraîneur du Stade malien de Bamako. Football féminin, cette fois-ci, début donc ce lundi du troisième retour des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris, zone Afrique. L'Afrique du Sud, qui a presque assuré sa qualification, reçoit la Tanzanie, qu'elle a battue à l'aller 3-0. Demain donc, va se jouer ce match Afrique du Sud-Tanzanie. Élysée, les champions d'Afrique en titre, ils sont presque.
Bien évidemment. Et quand on parle aujourd'hui du football féminin, eh bien, l'Afrique du Sud fait la marche devant. Hein. C'est vrai que depuis un bon moment, le Nigeria n'arrive plus à asseoir sa domination sur cette discipline. Donc l'Afrique du Sud qui, quand même, a commencé par se faire remarquer sur le continent avec cette nette victoire, 3-0 à l'aller. Eh bien, les Sud-Africaines seront qualifiées pour la finale, pour les dernières rencontres décisives hein, et qualificatives pour les Jeux Olympiques, puisque l'Afrique ne va donner que deux tickets, donc deux représentantes africaines seront du côté de Paris pour défendre viablement les couleurs du continent. Donc l'Afrique du Sud est presque qualifiée, reste maintenant, qualifiée pour le dernier tour, j'allais dire donc, reste maintenant le dernier tour pour être vraiment fixé sur ceux-là, ces équipes-là qui vont représenter le continent africain.
Après le 0-0 à l'aller, le Nigeria s'est imposé aujourd'hui même 1-0 devant le Cameroun à Abuja et file donc vers ce dernier tour qualificatif pour les JO. Alors, Jules, on dira tout simplement que les Nigérians ont fait le boulot.
Oui, tout simplement, les Nigérians ont fait le boulot et les circonstances les ont relativement favorisées. Nous avons affaire actuellement à une équipe du Cameroun qui est en train de se reconstituer. La grande équipe des Ngannamouit, dans la décennie précédente, ayant presque disparu. Et elles ont aussi eu à déplorer l'absence, ne serait-ce que sur un des deux matchs, des deux leaders qui leur restent en attaque. Et on parle ici de Shoot Ndiara. Et en défense, la patronne de la défense, Johnson, qui vient d'accoucher à 37 ans. Donc finalement, les jeunes Camerounaises, en perdant juste par 1-0 contre le Nigeria au match retour au Nigeria, ont pratiquement rempli leur mission. C'est une équipe en reconstruction et le Nigeria, c'est un grand gabarit qui avance tout doucement vers les Jeux Olympiques, peut-être aux côtés de l'Afrique du Sud ou du Maroc.
Et justement, parlant du Maroc, vainqueur à l'aller 2-1, devant la Tunisie, les Lions de l'Atlas voudront simplement terminer le boulot. On retrouve Amine, bien sûr.
Oui, terminer le boulot après avoir réussi à gagner la première manche face à une équipe tunisienne très courageuse, très volontaire, victoire de 2-1 avec l'équipe du Maroc basée sur une ossature de joueurs de l'AS FAR ou d'anciens joueurs de l'AS FAR, une stratégie de jeu un peu plus offensive, un peu plus ambitieuse concoctée par le sélectionneur espagnol du Maroc, Jorge Vilda, ex-champion du monde avec la Roja. Et visiblement, il va falloir maintenant remplir la deuxième partie de contrat à Rabat mercredi lors d'une rencontre qui sera loin d'être une formalité puisque les Tunisiennes ont montré un bien beau visage, notamment en deuxième mi-temps, même en l'absence de leur meilleure joueuse, Meliem Aouij. Il faut dire aussi que le football tunisien est dans une période très difficile. Un président de la fédération, Derrida Barrow, des listes pour la candidature à la présidence de la fédération qui ont été récusées et possibilité aussi d'avoir un comité de normalisation dans les prochains jours. Autant dire que ce n'est pas véritablement la priorité que d'avoir une sélection nationale qualifiée pour les JO. Les Marocains, si elles l'emportent, affronteraient au dernier tour les gagnants du match entre la Zambie et le Ghana, ce qui laisserait peut-être plus de chances de se qualifier, eu égard au fait que dans l'autre partie de tableau, les deux super géants vont s'affronter, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria.
Et justement, parlant de la Zambie et du Ghana, la Zambie avait gagné 1-0 à l'aller. Amdine, on dira, c'est une courte victoire pour les Zambiennes, 1-0. Mais c'est pas presque fait pour les Zambiennes, mais le Ghana a quand même quelques chances de revenir.
1-0 pour les Zambiennes face aux Ghanéennes. Cela veut dire que c'est une courte mais précieuse victoire. Hein. Maintenant, moi, je m'attends à un match très difficile hein, puisque les Ghanéennes feront tout pour renverser les Zambiennes, mais ce sera très difficile puisque les Zambiennes sont vraiment devenues une bonne équipe et je pense qu'elles vont bien négocier cette seconde match. En tout cas, pour le moment, on peut dire que c'est du 60-40 puisque les Zambiennes comptent un but d'avance sur les Ghanéennes Yacouba.
Balle au panier du basket donc avec les qualifications pour le prochain Afro-Basket 2025 Élysée, sans faute pour la Tunisie dans la poule E. 3 matchs, 3 victoires, dont la dernière bien sûr, 82-73 devant l'Angola.
Oui, la Tunisie, championne d'Afrique en titre, qui a connu de difficultés, même ses clubs qui ont connu de difficultés lors de la nouvelle Ligue africaine des champions connue sous le nom de la balle, eh bien les Tunisiens quand même sont arrivés à se qualifier pour la phase finale de cette Afro Basketball qui aura lieu en 2025 en assurant 3 victoires en 3 matchs. C'est vrai, même devant l'Angola qui avait 2 victoires aussi, eh bien les Angolais se sont inclinés lors de cette ultime rencontre pour pouvoir prendre le seul billet qualificatif hein, puisque c'est seulement les premiers de chaque groupe qui seront d'abord qualifiés et après il faut attendre novembre prochain pour être vraiment fixé sur ceux-là qui vont accompagner les premiers de chaque groupe. Donc la Tunisie finit en tête de son groupe en battant la redoutable équipe angolaise.
La Côte d'Ivoire, elle aussi, finit première de sa poule D, victoire sur le fil 79-76 devant l'Égypte. Amdine, ça s'est joué à rien.
Oui, ça s'est joué à rien, mais on a vu que la Côte d'Ivoire est en train de revenir très fort au niveau du basketball. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont réussi à se qualifier quand même pour la Coupe du Monde. Donc, c'est vrai, c'est une victoire sur le fil, mais l'essentiel est fait, il fallait se qualifier et les Ivoiriens l'ont fait, Yacouba.
Jules, le Cap Vert victorieux du Nigeria 78-62 passe en tête donc du groupe B devant la Libye qui a largement dominé l'Ouganda 71-59.
Oui, mais le Cap Vert qui d'une manière générale a compris qu'il faut ratisser dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les binationaux. Et c'est la Côte d'Ivoire, par exemple, et suit le même rythme, mais d'une manière très sérieuse et soutenue. Et ça ne nous surprend pas. Que ce soit en handball ou en basketball, le Cap-Vert est sur cette dynamique. Et si on ajoute à cela une bonne préparation, cette équipe n'a pas fini de rester aux avant-postes dans le basketball africain. Et c'est très normal qu'elle se soit qualifiée dès le premier et la première fenêtre de qualification.
Alors, Amdine, quand on regarde justement ces pays qui ont arraché leur ticket pour la phase finale, je vais parler de la Tunisie, je parle de la Côte d'Ivoire, le Cap Vert, quand on fait le parallèle avec ce qui se passe dans la Basketball Africa League, c'est pratiquement aussi des clubs appartenant à ces pays-là qui reviennent. Est-ce que véritablement le basketball africain progresse parce qu'on voit que les autres sont vraiment à la traîne?
Non, le basketball africain progresse. Maintenant, le problème, c'est au niveau quand même des équipes locales, sur le plan local, puisque en basket, les maires ne jouent pas dans le pays. C'est ça le problème. Les maires ne jouent pas dans le pays. Donc, au niveau des championnats locaux, on essaye quand même de faire un travail extraordinaire. Et c'est là que ça devient intéressant par rapport à l'organisation de la balle, puisque la balle a permis à des clubs locaux d'avoir de très bons jours, de faire de bons recrutements pour avoir des équipes compétitives. Maintenant, il faut continuer le travail pour allier le travail au niveau local et faire appel aux expatriés pour pouvoir quand même avoir de bonnes équipes sur le plan continental, mais je pense qu'au niveau africain, le niveau est bon, Yacouba.
Merci beaucoup, Abdensi. Je rappelle que les groupes A et C vont disputer leur première fenêtre qualificative du 18 au 26 novembre prochain. C'est ici que nous refermons ce numéro d'Esporama. Merci à nos consultants Élisée Mpatine, Jules Valentin Ngoué, Amine Birouk et Abdensi, bien sûr. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges Léonard Sagno. À la console, c'était Hélène. Je suis Yacouba Ouédraogo. Jean-Roger Billon est en place pour la nouvelle édition du journal. On se dit la semaine prochaine. Au revoir.